Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans l'émission « Et si on en parlait ?» Et aujourd'hui, l'émission sera consacrée à la crise épidémique que nous traversons, celle du Covid-19, et surtout à l'engagement des maires dans la manière dont effectivement le gouvernement aujourd'hui s'appuie beaucoup sur les élus locaux pour faire face à la crise. Et on a le plaisir de recevoir dans la première partie de l'émission Guy Lefranc. Bonjour, monsieur le maire.
Bonjour.
Vous êtes donc maire d'Évreux et vice-président de la région Normandie, une grande région qu'on apprécie et sur laquelle la radio est très écoutée. Et on a le plaisir donc de vous recevoir dans l'émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc, monsieur le maire, j'ai envie tout de suite de vous poser la première question. C'est finalement, on est aujourd'hui dans une forme de continuation de restrictions fortes. Hein. On s'attendait au 15 décembre à avoir peut-être des bonnes nouvelles et finalement, c'est plutôt des moins bonnes nouvelles. Donc, comment est-ce que vous affrontez la poursuite du confinement et la nécessité aussi de se préparer? Ces fêtes de fin d'année vont être l'occasion de rassemblements familiaux, de rassemblements aussi peut-être festifs, ce qui est moins autorisé. Et néanmoins, il faut prévenir la population, alerter et faire front.
Oui, bien écoutez, vous l'avez dit, je suis maire d'Évreux, mais je suis aussi médecin urgentiste, donc j'ai régulièrement les mains dans le Covid. Donc cette double appartenance à la fois au monde politique et au monde de la santé me permet effectivement d'avoir une vision peut-être parfois un peu différente des choses. Ce qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui, et ce qui inquiète la population, c'est ce sentiment d'incertitude, ce sentiment de plonger en permanence dans l'inconnu, de ne pas savoir où on va aller. Moi aujourd'hui, ce qui me frappe, ce qui me choque même, ce sont les troubles psychologiques que l'on commence à voir apparaître partout, soit de manière individuelle, chez des personnes qui peuvent être plus fragiles, plus sensibles à cette difficulté sociale, cette difficulté dans les relations, soit aussi de manière collective, avec des groupes, des regroupements, des interrogations, voire des risques sociaux plus importants. Aujourd'hui, moi, en tant que maire, évidemment, et en tant que médecin, je ne peux qu'appeler à la prudence, éviter les rassemblements massifs. Mais on sait aujourd'hui que dans nos villes et même dans nos campagnes, nous avons de nombreux rassemblements de 10, 15, 20 jeunes qui se retrouvent, qui font la fête parce qu'ils ne supportent plus ce confinement. Autant les personnes âgées aujourd'hui ont plutôt peur et ont tendance à se confiner ou à rester tranquille, autant on voit bien qu'il y a une jeunesse qui est un petit peu impatiente, qui a envie de vivre, qui a envie de bouger. Et donc, Il faut continuer à gérer l'urgence, il faut continuer à assurer la vie quotidienne dans nos centres de loisirs, dans nos cantines, dans nos écoles. Il faut dans le même temps assurer la sécurité de nos habitants. Nous continuons à assurer le portage de médicaments à domicile, par exemple, que nous avions mis en place, à assurer un soutien psychologique par téléphone auprès des familles, et puis assurer aussi le maintien de l'économie, le maintien de la santé, évidemment, pour nos agents, avec tout ce travail sur les masques, sur les gels hydroalcooliques, etc. Donc, nous avons aujourd'hui un travail qui s'inscrit dans la durée, contrairement à la première épidémie, où nous étions vraiment dans l'urgence, c'était de la gestion de crise. En tant que médecin urgentiste et médecin de catastrophe, pour moi, c'était un peu la continuité de mon métier. Aujourd'hui, on voit bien qu'on va s'inscrire dans la durée. Comment est-ce qu'on va s'organiser? Comment est-ce qu'on va réapprendre à vivre? J'étais au mouvement là, de protestation de la culture pour écouter un peu les uns et les autres. Et on voit aujourd'hui qu'on se dit, mais finalement, qu'est-ce qui est important dans notre vie? Et si on peut aller un petit peu plus loin, le maire que je suis, mais aussi le citoyen s'interroge, c'est aujourd'hui qu'est-ce que la vie en 2021 dans l'heure à Évreux ou en France? Est-ce que c'est simplement protéger sa santé et celle de sa famille? Est-ce que c'est continuer à vivre? Est-ce qu'on peut imaginer une société qui va vivre durablement avec un virus dans lequel il n'y aura plus de culture, dans lequel la spiritualité est difficile à vivre, dans lequel le lien social n'existe plus? C'est quoi aujourd'hui être vivant? Est-ce que c'est simplement être en bonne santé ou est-ce que ça va au-delà? Donc vous voyez, énormément de questions, mais je suis peut-être un peu long dans ma réponse pour votre première question.
Non, non, je pense que c'est très important de donner de la perspective et d'éclairer nos auditeurs et nos concitoyens sur la situation que nous vivons et qui effectivement génère beaucoup d'anxiété aussi, beaucoup de stress. Et c'est vrai qu'on a le sentiment aujourd'hui que, eh bien, on ne voit pas le bout du tunnel. Et donc c'est un petit peu là-dessus que je voudrais vous interroger. Alors c'est vrai que la première vague, on se rappelle que les débats se focalisaient beaucoup sur le port du masque, le respect du confinement, le gel hydroalcoolique. Dans cette deuxième vague, on a l'impression maintenant qu'on parle toujours du confinement, mais qu'on parle plus de se faire tester, comment on se fait tester, comment on se fait éventuellement isoler si on est testé positif. Et puis, à partir du mois de janvier, on va parler aussi beaucoup de vaccination.
Mmh. Ah, c'est vrai, vous avez raison, encore une fois, voilà, on s'inscrit aujourd'hui dans la durée, on a des directives, vous l'avez rappelé dans votre introduction, qui nous arrivent parfois du jour au lendemain, qui nous obligent à nous adapter. On voit bien que la stratégie de l'État jusqu'à présent, mais comme dans d'autres pays d'ailleurs, a été malheureusement un échec. Nous voyons bien que les tests ont été compliqués à mettre en œuvre. Et là, c'est le médecin qui parle. La difficulté, c'est qu'il y a des faux négatifs et des faux positifs parmi les tests. Donc ça crée aussi une certaine anxiété. Ça génère une anxiété encore plus importante. Et derrière, on va se poser la stratégie de la vaccination. Je pense que le fait de ne pas rendre la vaccination obligatoire est une bonne chose. L'État a eu raison de ne pas l'imposer. Mais il va falloir malgré tout avoir des campagnes de communication. Nous n'allons pas être dans les premiers à nous faire vacciner, donc on voit bien que les premiers retours d'Angleterre ou des États-Unis, on le voit dans les revues médicales commencent à sortir. On voit le risque chez les personnes très allergiques, par exemple, etc. Donc je pense que nous allons avoir, nous aussi, à assumer ces campagnes de vaccination. Je pense que se faire tester, si on va dans sa famille, notamment si on va voir des personnes âgées pour Noël, nous sommes plutôt une bonne chose. Après, je pense que nous, les communes, nous allons aussi être mis à contribution pour mettre à disposition des locaux, pour s'organiser. Je crois qu'on a enfin compris qu'il fallait travailler avec le public et le privé, qu'il fallait travailler avec la médecine de ville sur tous ces sujets, qu'il fallait travailler avec les paramédicaux, les infirmières libérales notamment. Donc on sent aujourd'hui qu'il y a une volonté davantage de travailler ensemble, d'associer un peu plus les élus locaux, qui, vous l'avez dit, ont fait la preuve de leur efficacité. Pour autant, tout ça, même si ça va nous apprendre à vivre avec ce virus, ne nous donne pas les solutions et les codes pour voir ce qu'on va faire après. Quid de notre liberté? Comment est-ce qu'on va accepter sur le long terme les restrictions de liberté majeures quand même qui nous sont imposées? Comment est-ce que nous allons faire pour accompagner l'État qui est garant de l'autorité pour éviter les troubles sociaux, pour éviter des manifestations de grande ampleur? Comment est-ce que nous allons pouvoir participer à ce que l'État desserre l'étau qu'il a mis sur la culture? Quand vous n'avez plus de liberté, quand l'autorité est mise à mal, quand la culture n'existe plus sur un territoire, alors on s'interroge évidemment sur l'avenir. Je pense que le rôle des élus locaux, c'est justement d'être un peu cette courroie de transmission entre les attentes du peuple et les décisions prises au plus haut niveau.
Alors justement, les élus locaux sont, malgré la crise et malgré la crise aussi de l'autorité de l'État, vous en avez parlé, restent des repères fondamentaux dans la République, puisque c'est autour d'eux finalement que le pacte social tient, et tient notamment dans cette période particulière. Comment est-ce que vous accompagnez aussi toutes celles et tous ceux qui sont les victimes collatérales du confinement, à savoir en particulier les acteurs de la culture, vous en avez parlé, mais aussi on pense à tous ces commerces de proximité et finalement à tout ce qui apparaissait comme, je dirais, naturel et qui aujourd'hui est fragilisé et gravement fragilisé. Je pense aussi aux associations sportives qui, pour certaines, tirent des sonnettes d'alarme. Comment la ville d'Évreux va essayer de limiter les dégâts, parce qu'on sait que malheureusement, il y aura des traces, cette crise va laisser des traces.
Oui, alors, vous avez raison, le travail d'accompagnement, il est fondamental. Sur les associations, nous avons eu un conseil municipal Et récemment, nous avons voté le budget des associations qui reste stable par rapport à l'an dernier. Et l'an dernier, donc sur 2020, et donc 2020-2021, nous avons un budget stable pour les associations, alors même qu'elles ont beaucoup moins de manifestations organisées dans le monde de la culture, alors même qu'elles ont beaucoup moins d'adhérents, beaucoup moins de mise en place de compétitions au niveau du sport. Donc l'accompagnement qui est fait par la ville d'Évreux, mais comme la majorité des collectivités, c'était aussi le cas du département ou de la région, ça a été de maintenir les subventions alors même qu'il y a eu moins de choses de réaliser. Sur le commerce de proximité, alors là c'est un sujet un peu différent, vous le savez, la ville d'Évreux a été un peu en pointe dans le combat contre l'iniquité dont a été victime le commerce de proximité. J'ai déposé un arrêté qui a été suspendu, qui n'est toujours pas jugé d'ailleurs sur le fond, sur le fait, en arguant du fait que les commerces de proximité n'ont entraîné aucun cluster, aucun foyer épidémique de Covid-19. Et donc, personne n'a été capable de me démontrer qu'en fermant les petits commerces, on pouvait éviter l'infection. Donc, cet arrêté aujourd'hui est toujours en attente. Au-delà, j'ai souhaité accompagner avec mon équipe municipale les petits commerces, c'est-à-dire que nous avons mis en place des bons d'achat qui ont été distribués à la population, qui vont être distribués également à nos agents de la ville et de l'agglomération, ce sont près de 2500 agents, ce sont des bons d'achat de 20 euros qui sont utilisables dans tous les commerces de proximité sur le territoire de la ville d'Évreux, tous les commerces qui ont été fermés par le décret du 29 octobre. C'est important parce que plutôt qu'une subvention ou plutôt qu'un soutien très théorique, ce sont des choses très pragmatiques. Chaque habitant, chaque foyer avec son bon d'achat de 20 euros va être incité à aller le dépenser dans les commerces de proximité et évidemment à dépenser davantage. Donc les personnes plutôt en situation de précarité vont dépenser 20 ou 25 euros. Les personnes qui ont davantage de moyens, à partir des 20 euros, vont pouvoir dépenser 80, 100, 120 euros supplémentaires. C'est un effort conséquent, puisque c'est près de 500 000 euros que nous mettons sur la table pour accompagner ces commerces. Et nous prenons une bonne partie de cet argent sur le budget événementiel, sur tous les événements qui n'ont pas pu avoir lieu depuis le mois de mars 2020, suite évidemment à la crise du Covid et à la fermeture de toutes nos manifestations. Mais encore une fois, beaucoup de communes essaye aujourd'hui d'inventer des choses sur le commerce, mais aussi sur le monde économique. Nous avons souhaité, par exemple, ne pas faire payer les loyers pour les locaux dont la ville ou l'agglomération est propriétaire. Nous avons reporté les factures d'eau, nous avons supprimé les redevances de droits de terrasse, vous savez, les terrasses qui sont normalement payantes pour les bars et restaurants.
L'occupation de la voie publique.
Voilà, c'est ça. Nous avons remboursé la CFE, la contribution foncière des entreprises, pour tous les petits commerces. Et puis, nous agissons en complément de la région. C'est ce qu'on appelle le process Impulsion Résistance Normandie, où pour les établissements économiques qui ne bénéficient pas du Fonds National de Solidarité, nous accompagnons des aides jusqu'à plus de 5 000 euros pour les uns et les autres. Vous voyez, donc tout un ensemble de petites mesures qui, mises bout à bout, peuvent, j'espère, nous permettre de sauver une bonne partie de nos commerces de proximité.
Alors, une question un petit peu dans la continuité de ce que vous indiquiez, sur le soutien au commerce, aux associations, au tissu économique et social, finalement. On voit aussi une montée de la précarité et de la pauvreté. Les associations, les banques alimentaires voient leur fréquentation exploser. J'imagine que c'est le cas à Évreux. Vous avez sans doute un Secours catholique, un Secours populaire ou un Resto du Cœur. Et donc, ça veut dire que finalement, on voit de manière concrète, à travers un certain nombre d'indicateurs, l'augmentation du chômage, évidemment, et aussi des demandes de RSA. On voit qu'effectivement, c'est une crise économique aujourd'hui qui frappe de plein fouet et qui frappe souvent encore plus durement ceux qui sont déjà fragilisés.
Bien sûr, et puis ce n'est malheureusement, probablement, que le début de cette crise économique et de cette crise sociale. Nous avons effectivement, nous aussi, on a ouvert un gymnase pour les SDF pour qu'ils soient protégés. Nous avons accompagné l'aide aux plus isolés, aux plus démunis. Et d'ailleurs, c'est peut-être un des seuls points positifs, si j'ose dire, si j'ose m'exprimer ainsi, de cette crise, c'est le développement de l'entraide, c'est le développement de la fraternité. C'est peut-être un des enseignements à tirer, c'est qu'aujourd'hui, où on explique que la nation n'est plus là, qu'il n'y a plus de lien entre l'État et la nation, que les gens sont très égoïstes les uns avec les autres, eh bien on s'aperçoit que peut-être que le nouveau contrat social qu'il va falloir créer au sein de la population, ça passe justement par cette entraide. Nous avons été nous stupéfaits de voir toute la chaîne, tant sur le premier confinement qu'aujourd'hui encore au moment de Noël. Nous avons appelé à la confection de cadeaux de Noël pour les plus démunis, et ce sont des centaines et des centaines de cadeaux qui sont arrivés aujourd'hui dans les mairies, mairies annexes, dans certains commerces qui ont relayé cette opération. Et on voit bien cette prise de conscience. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience de la part de la population et de la fragilité de certaines populations et de la fragilité de nos commerces de proximité et de la fragilité même de nos institutions. On voit bien que l'hôpital a été au bord de la rupture, on voit bien que les forces de l'ordre sont par moments au bord de la rupture, on voit bien que le monde économique est dans certains endroits au bord de la rupture. Et je pense que finalement...
Sans oublier l'éducation nationale aussi, ça a été difficile pour les enseignants dans cette période de continuer à tenir en distanciel pendant le premier confinement et puis à réouvrir les écoles parce qu'il fallait que les enfants puissent continuer à être éduqués.
Bien sûr, bien sûr. Vous savez, j'ai un fils enseignant, donc j'ai énormément échangé avec lui pendant ces périodes de confinement. Et j'ai bien vu la difficulté, la perte de contact avec certains élèves, la difficulté de noter, d'apprécier le travail réalisé, y compris le travail personnel. Et puis, tout ce risque avec des jeunes ou des moins jeunes qui sont sortis du système scolaire, comme d'autres sont sortis du système du travail, du monde du travail, et qui vont avoir du mal à y rentrer à nouveau. Donc oui, ça va être une crise sociale, sociétale, qui va perdurer probablement pendant des années aujourd'hui. On ne voit que le début de ce qui va se passer.
Et donc, évidemment, ça sera aussi vers vous. Quand je dis vous, c'est les maires, hein, les élus locaux, les équipes municipales, bien que beaucoup de gens vont se tourner quand ils seront victimes et frappés par toutes ces crises économiques, sociales et puis à plus court terme, la crise sanitaire qui malheureusement n'est pas encore totalement finie. Peut-être une dernière question, puisque c'est le moment de formuler des vœux, de former des vœux en cette fin d'année. Qu'est-ce que vous attendez peut-être de l'État aussi? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être faites rapidement? Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre commune et vos concitoyens en cette proximité avec la fin de l'année 2020, une année quand même particulièrement éprouvante?
Ce que je souhaite évidemment pour les Ébroïciennes et les Ébroïciens, mais aussi pour l'ensemble de la population, c'est d'abord de pouvoir préserver sa santé, bien évidemment. Mais au-delà, de réapprendre, et avec de l'État qui prenne enfin conscience qu'on ne doit pas que gérer l'urgence, mais préparer l'avenir, prendre conscience de la nécessité d'un nouveau pacte de solidarité, d'un nouveau pacte social entre nos concitoyens, s'interroger et avoir des réponses claires et qui nous satisfassent sur la liberté, sur l'autorité, sur le maintien et le développement de la culture, parce que c'est ce qui fait notre société, c'est ce qui fait notre civilisation, et donc je forme le vœu que notre civilisation retrouve des bons fondamentaux pour repartir enfin sur des bonnes bases pour que les citoyens soient davantage heureux qu'ils l'ont été.
Alors peut-être une dernière question, parce que vous avez parlé plusieurs fois de des libertés, et notamment des libertés publiques, je pense, avec les contraintes finalement qui sont imposées en termes de circulation, d'interdiction de se déplacer notamment. Et vous craignez, vous avez trouvé, vous avez, comment vous avez vécu ça? C'est vrai qu'on n'imaginait pas, il y a un an, on nous aurait dit qu'on allait suspendre ce qui nous paraissait des acquis démocratiques, républicains, sans débat, pratiquement, de manière extrêmement brutale, en quelques heures, en quelques jours, avec des annonces suivies de prises d'effet. Vous imaginez, vous, que ça puisse se passer comme ça, de manière aussi brutale, et finalement, sans qu'on se questionne vraiment sur les conséquences et sur la manière dont, effectivement, nos libertés ont été bien durement éprouvées?
Non, vous avez raison. Il y a un an, personne n'imaginait que la démocratie serait ainsi mise à mal, personne n'imaginait que nos libertés seraient ainsi restreintes, réduites, voire quasiment réduites à néant. C'est une vraie inquiétude. C'est une vraie inquiétude pour les mois et les années qui viennent. Je ne ferai pas le procès au gouvernement de vouloir réduire volontairement nos libertés. Le gouvernement a agi dans l'urgence. Mais je pense qu'il faut y faire très attention. La sécurité ne doit pas être une excuse pour supprimer des libertés. Et donc, je serai vraiment très attentif à ce qu'en 2021, petit à petit, nous retrouvions nos libertés. Vous savez, on vivait en liberté alors que nous avons la grippe tous les ans qui tue 15 000 personnes en France. Il faut que nous apprenions à vivre avec ce virus qui continuera à tuer pendant probablement longtemps, notamment les personnes qui ne seront pas vaccinées. Il ne faut pas que ce soit un prétexte, une excuse pour mettre une chape de plomb sur les libertés publiques dans notre pays, sur les libertés individuelles, sur le respect de la démocratie et des élus du peuple. Et donc c'est pour moi un vrai motif, sinon d'inquiétude, en tout cas d'attentisme très très important.
Et donc c'est une préoccupation à laquelle vous serez très attentif en cette fin d'année et pour l'année 2021. On l'a bien entendu. Merci Monsieur le maire Guy Lefranc, qui est maire d'Evreux, vice-président de la région Normandie, qui nous a fait le plaisir de participer à l'émission aujourd'hui. On vous souhaite, Monsieur le maire, ainsi qu'à tous les habitants de la commune et de l'agglomération d'Evreux, une très bonne fin d'année, malgré tout, si je puis dire, en espérant effectivement que les familles puissent quand même retrouver un petit peu de réconfort après cette année 2020 qui aura été particulièrement éprouvante. Merci Monsieur le maire.
Merci à vous et très belle fête de fin d'année à tous.
À vous également, à très bientôt.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet. Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Et si on en parlait, la suite de votre émission, Loïc Barrière avec vous pour cette seconde partie. Il y a quelques instants, Alexis Bachelet recevait le maire d'Evreux. J'ai le plaisir à présent de m'entretenir avec le maire de Douai, Frédéric Chéreau, membre du Parti Socialiste. Bonjour. Alors Frédéric Chéreau, pour commencer cette émission consacrée à la crise sanitaire, est-ce que vous pouvez nous dresser un état de la situation sanitaire dans votre département et plus particulièrement dans le secteur de Douai ?
Écoutez, la situation sanitaire dans le département du Nord ressemble un petit peu à ce qu'elle est au niveau national, à Douai également, avec des chiffres d'incidence et de positivité qui ont peu à peu baissé en octobre et en novembre, et qui malheureusement aujourd'hui repartent un petit peu à la hausse, alors même qu'il reste une tension importante dans notre centre hospitalier. Et nous sommes finalement, comme partout ailleurs, un petit peu inquiets des conséquences à venir des deux réveillons de Noël et du jour de l'an.
Alors justement, à la veille des fêtes de Noël et du Nouvel An, quels conseils souhaitez-vous donner aux habitants de votre commune ?
Je voudrais vraiment relayer les recommandations des médecins de notre autorité de santé, du gouvernement, de dire profitons des vacances pour nous confiner le plus possible, ne sortons pas trop, ne voyons pas trop nos proches, malheureusement, c'est compliqué, c'est un peu un crève-cœur à Noël, et respectons vraiment, surtout, lors des deux réveillons, la jauge à 6 personnes. Je sais que pas mal de gens se disent, oh, ben, c'est pas grave, on va se faire tester, et on dépassera la jauge. C'est une mauvaise idée. C'est vraiment ça qui risque de faire redémarrer l'épidémie en janvier. On a encore du temps à attendre, même si la vaccination devrait normalement démarrer assez rapidement, elle prendra du temps. Donc il faut qu'on reste très prudent. On est au milieu de l'hiver et on est encore loin du compte.
D'autant plus que les autres pays européens sont un peu plus prudents en termes sanitaires que la France. On a vu ce qui s'est passé notamment en Allemagne, en Belgique, en Grande-Bretagne.
Oui, et pour ne parler que de la Grande-Bretagne, qui est un pays voisin de la France, on sait qu'aujourd'hui l'épidémie est en train de repartir de plus belle dans le sud-est de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire à deux pas des Hauts-de-France. Donc vraiment, il y a toutes les raisons de rester très prudent. On espère tous que ça finira un jour, que ça finira en 2021, mais je pense raisonnablement qu'on a encore plusieurs mois à attendre, même si c'est difficile.
Frédéric Chéreau, le gouvernement a indiqué que les élèves pourraient ne pas aller à l'école jeudi et vendredi pour s'autoconfiner avant Noël. Vous donnez également ce conseil aux parents d'élèves ?
Je dirais que là-dessus, je laisse le gouvernement prendre la responsabilité de ces propos-là. Je pense que nous, nos écoles sont sécurisées, il y a un encadrement de grande qualité, les gestes barrières sont parfaitement respectés dans les classes, tout le monde a son masque, on met du gel, on aère. Maintenant, effectivement, si des familles retirent leurs enfants jeudi ou vendredi, personne ne leur en voudra et les pénalisera puisque le gouvernement l'autorise. Et il ne faut pas que ce soit pour de mauvaises raisons, il faut que ce soit pour se confiner et limiter fortement les contacts humains à l'approche des fêtes.
Frédéric Chéreau, des Français, veulent faire des tests avant les fêtes. Là aussi, vous leur dites, attention, ça n'est peut-être pas une si bonne idée.
Si, alors, si on se teste parce qu'on a le sentiment qu'on a pris un risque, qu'on a rencontré quelqu'un de positif, que voilà, on a des symptômes, là c'est une bonne idée, effectivement. Si c'est se tester pour dire, eh ben voilà, je me teste maintenant, et puis du coup, dans une semaine, je peux faire un réveillon sans le masque, tranquillement, avec 20 personnes, donc ça c'est une très mauvaise idée. On peut se tester, avoir un résultat négatif et être en réalité positif. On peut se tester, être négatif et puis attraper le virus le lendemain. Donc un test n'est absolument pas une garantie de sécurité absolue.
Vous qui êtes maire, vous avez été confronté de près à la mort, puisque dans toutes les villes de France, des habitants sont décédés du Covid. Dans certaines familles, il n'y a pas eu forcément de personnes touchées directement. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une forme de déni chez certaines personnes, notamment les jeunes ?
Je pense qu'effectivement, les jeunes ont le sentiment que cette maladie, pour eux, n'est pas grave. Et dans la plupart des cas, c'est vrai. Les jeunes, quand ils attrapent la Covid, peuvent rester non symptomatiques ou avoir des symptômes légers. La vraie difficulté, et c'est ça qu'il faut faire comprendre à nos jeunes concitoyens, c'est que on peut très bien ne pas être symptomatique, mais être très dangereux pour ses proches, notamment ses proches âgés. Voilà, donc si on tient, et c'est notre cas à tous, à nos parents, à nos grands-parents, on doit se protéger nous-mêmes aussi pour eux.
Durant le confinement, vous avez beaucoup travaillé sur cette question de la crise sanitaire dès le premier confinement. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de tests qu'auparavant dans votre ville ?
Oui, alors ça a eu un petit peu de mal à démarrer fin août, début septembre, mais maintenant les tests fonctionnent très bien. Il n'y a plus vraiment de tension. Alors il y a des gens toute la journée dans le laboratoire, hein, ça, je peux vous dire que ça tourne. Mais nos laboratoires suivent sans problème. Moi, je veux vraiment rendre hommage d'ailleurs aux professionnels de santé de ville qui se sont organisés dans ce qu'on appelle une communauté professionnelle territoriale de santé. Et en groupe, de manière collective, ils se sont tournés vers la municipalité pour obtenir des salles que nous avons évidemment mises à disposition, aménagées pour que les tests se passent dans les meilleures conditions possibles, dans des lieux facilement accessibles.
Alors, durant le premier confinement, Frédéric Chéreau, on s'était déjà parlé, vous avez accéléré la mise en ligne des commerçants, en fait. Il y a une plateforme numérique qui a été créée. C'était quelque chose à laquelle vous pensiez avant la crise sanitaire. Les choses se sont accélérées. Quel bilan peut-on faire de cette vitrine commerciale de la ville de Douai ?
Déjà, un premier bilan sur sa mise en place. Au fond, elle a commencé tranquillement à monter en charge à la fin du premier confinement, et finalement, on peut se dire qu'en juin, elle ne remplissait pas encore complètement son rôle. C'est quelque chose qui prend du temps à construire, à installer. Il faut que les commerçants, déjà, apprennent à l'utiliser, comprennent comment on fait pour mettre des produits en ligne, pour redoubler son offre, etc. Donc nous avons fait un très très gros travail de formation des commerçants, avec l'Union des commerçants de Douai, et nous avons aujourd'hui, je crois, plus de 1000 boutiques, on a dépassé 5 ou 6 000 produits en vente sur le site, ça continue à monter. Alors ça a à la fois un rôle de vente directe en ligne, évidemment il y a des gens qui achètent sur la plateforme, ça a aussi un rôle de vitrine. Ça permet de montrer ce qui existe, de faire connaître des commerçants, et puis ensuite on a pas mal de clients qui regardent des choses sur la plateforme, qui découvrent, et qui se rendent ensuite dans les magasins pour acheter. Aujourd'hui, c'est que vraiment, un commerçant qui n'est pas en ligne se met en danger. Dans les années qui viennent, les Françaises et les Français ont pris des habitudes d'achat sur Internet.
Et j'ai vu que sur les réseaux sociaux de la ville de Douai, vous mettez en avant régulièrement ces commerçants. Il y a une nouvelle relation qui s'est instaurée entre ces commerçants et la population.
Oui, je crois, pour beaucoup de Douaisiens que je croise, je sens qu'il y a vraiment une envie d'acheter local, de faire vivre leurs commerçants de proximité. Beaucoup de Douaisiennes et Douaisiens sont inquiets pour l'avenir de nos artisans et de nos commerçants. Nous avons essayé de les aider autant qu'il était possible, alors avec cette plateforme bien sûr, avec 3 opérations commerciales financées par la ville, plus une 4e qui s'est passée justement en ligne sur cette plateforme. Nous avons exonéré de loyer les commerçants qui sont dans des locaux municipaux. La communauté d'agglomération a pris à sa charge les loyers de tous les autres commerçants. Donc vraiment, on a collectivement fait un gros gros effort parce que nous tenons à nos commerçants, mais vraiment, je veux le dire, je le crois, aujourd'hui, le commerce a largement basculé en ligne. Ça peut être positif pour les petits commerçants. serait si ces commerçants-là apprennent à vivre en ligne et à être visibles sur Internet.
Et là, la crise sanitaire a évidemment accéléré ce processus, mais c'est un processus qui va continuer une fois qu'on se sera débarrassé du Covid.
Oui, il y a des choses qui ne reviendront pas complètement en arrière, et même si nous pouvons demain retourner tranquillement dans les commerces sans difficulté, beaucoup de Françaises et de Français ont pris cette habitude d'aller sur Internet. Donc c'est vraiment maintenant que nos artisans et nos commerçants doivent apprendre à faire cette bascule en ligne. Ce que je répète souvent, c'est que finalement, aujourd'hui, une page, une présence sur Internet, c'est l'équivalent d'une vitrine dans la rue principale. Il ne faut pas s'en priver, même s'il faut aussi, bien sûr, garder une vitrine physique et un lieu où on peut rencontrer, les yeux dans les yeux, ses clients.
Est-ce que vous êtes inquiet, Frédéric Chéreau, pour les autres commerçants qui ne sont toujours pas ouverts? Je pense bien évidemment aux restaurants et aux bars. Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite? On sait que sur le plan national, certains ne pourront pas rouvrir de toute façon car ils vont faire faillite.
Oui, je suis inquiet, bien sûr. Alors, je sais qu'il y a les aides de l'État, il y a les aides de l'agglomération. J'espère que nous retrouverons la plupart de nos restaurateurs et de nos bars. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que nous avons mis en ligne les coordonnées de tous les restaurateurs de Douai qui proposent des menus pour le réveillon. Et vraiment, j'encourage les Douaisiennes et les Douaisiens à aller acheter leur menu de réveillon, soit chez nos traiteurs, soit chez nos restaurateurs. Il y a beaucoup d'offres très intéressantes, donc vraiment, n'hésitez pas. Plutôt que, pour une fois, de cuisiner soi-même, et ben voilà, on fait travailler nos professionnels, on les aide à passer dans les meilleures conditions possibles ces fêtes de Noël qui, d'habitude, sont un moment très important pour ces professionnels-là.
Alors, il y a un couvre-feu à Douai, comme dans le reste de la France, depuis mardi. De manière générale, ce couvre-feu est bien respecté. Est-ce que des instructions particulières ont été données à la police municipale?
Alors, c'est surtout la police nationale qui va faire respecter ce couvre-feu. J'étais hier sur la place Carnot de Douai, avec le sous-préfet et le commandant de police qui gérait cette opération hier soir. Nous avons constaté globalement que c'était très bien respecté. Évidemment, on a eu affaire à quelques retardataires ou quelques personnes qui n'avaient pas compris que c'était encore, que c'était le 15 que ça commençait. Mais globalement, je trouve que là-dessus, les Français, en tout cas les Douaisiens, sont responsables et se comportent de manière tout à fait respectueuse.
Frédéric Chéreau, tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il était important de bien respecter le nombre maximum de personnes pouvant se réunir à la maison. La soirée du 31 décembre sera très particulière cette année puisque le couvre-feu sera toujours en vigueur à 20h. Est-ce que vous redoutez les fêtes clandestines? Plus que Noël, le réveillon du Nouvel An, en général, est plus festif, plus propice aux grandes réunions.
Oui, je crains. Je sais que la police sera très vigilante ce soir-là. De toute façon, le résultat des courses, on l'aura en janvier. Si on a une reprise forte de l'épidémie, c'est que trop de gens n'auront pas respecté les consignes, auront été imprudents pendant les deux réveillons. Voilà, donc vraiment, croisons les doigts, continuons à passer les messages de prudence. On en a tous plus qu'assez d'être prudents, on en a tous plus qu'assez de devoir se contraindre. Rester enfermé chez soi, c'est tout sauf agréable, mais c'est encore nécessaire pour plusieurs mois.
Sur le plan national, il y a 10 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté, 300 000 sans-abri. Le Premier ministre a promis de consacrer 1 milliard d'euros pour les quartiers les plus pauvres. Est-ce que dans votre ville, vous avez les moyens aujourd'hui, les ressources nécessaires pour aider les personnes les plus fragiles?
Nous avons été très très attentifs aux personnes les plus fragiles dès le début du premier confinement en faisant immédiatement appel aux associations caritatives. Enfin, je veux dire, nous n'avons pas fait appel, elles étaient déjà sur le compte, nous les avons accompagnées pour pouvoir continuer à travailler, nous avons mis à disposition des masques, du matériel, des barrières, etc., dès le mois de mars, pour que justement le travail de ces associations caritatives ne s'arrête jamais. Nous avons aussi allégé les critères d'aide individuelle de notre centre communal d'action sociale, et finalement, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que pendant le premier confinement, globalement, on a vu à peu près les personnes habituelles. Et c'est pendant le deuxième confinement, c'est-à-dire encore maintenant, que nous voyons arriver des personnes nouvelles, des gens qui finalement étaient insérés, avaient un travail, n'avaient pas besoin d'aide, et qui nous disent aujourd'hui, ben voilà, j'ai perdu énormément d'heures d'intérim, ou alors j'ai simplement perdu mon emploi, je suis en difficulté, je découvre ce que c'est que de dépendre de l'aide publique. Et pour ces personnes d'ailleurs, pour certains, c'est très difficile, pour des gens qui avaient l'habitude d'être autonomes, de recevoir leur salaire, et qui doivent se tourner vers les associations caritatives. Voilà, c'est quelque chose que ces personnes ont du mal à vivre, et il faut vraiment les accompagner. Malheureusement, je crains qu'il y en ait encore davantage en 2021.
En 2021, le rôle des villes, des départements notamment, sera très important pour faire face à la crise sociale.
Je pense que la crise sociale va être le deuxième ou le troisième volet, voilà, de cette crise sanitaire. On s'est beaucoup orienté sur les questions de santé, de protection, de vaccination, mais la crise sociale arrive, même si l'État a mis beaucoup d'argent sur la table pour ne pas que les entreprises soient en difficulté. Malheureusement, oui, on peut craindre que pas mal de Français perdent leur emploi en 2021. Il faudra, je pense, en faire le chantier majeur de l'année 2021, mais les communes là-dessus seront au rendez-vous.
Frédéric Chéreau, la vie culturelle est mise entre parenthèses. Le théâtre de Douai se prépare en principe à rouvrir le 6 janvier. Les cinémas aussi. Vous êtes optimiste ?
Nous sommes prêts. Nous avions déjà commencé à reprendre la saison théâtrale en septembre-octobre, que nous avons dû réinterrompre aussitôt. Je dirais finalement que pour le théâtre municipal, voilà, enfin c'est moins grave que pour des professionnels qui dépendent de leur activité pour vivre. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que nous avons fait de notre mieux pour faire vivre le spectacle vivant en 2020. Nous avons par exemple organisé notre festival des Bambins sous une forme un peu différente de d'habitude. Nous avons choisi de dédommager les troupes de théâtre vivant qui devaient venir dans le défilé de Caillan en juillet, même s'il n'a pas eu lieu. Nous faisons vraiment très attention à ce que la ville continue à montrer son soutien à ces professionnels-là pour qui c'est effectivement très très dur en ce moment.
Frédéric Chéreau, les conseils municipaux à Douai sont disponibles en visioconférence. C'est finalement une nouvelle façon de communiquer. Vous l'intégrez totalement maintenant à votre communication, même après la crise sanitaire. Les habitants pourront continuer à voir ces conseils municipaux en direct.
Oui, je pense. Alors effectivement, il a fallu qu'on s'habitue à ça, qu'on se rôde. Je veux rendre hommage à notre service informatique qui a trouvé des solutions et qui nous a permis de tenir des conseils dans d'excellentes conditions, même si la toute première en mai, je me souviens, était un peu laborieuse. Aujourd'hui, ça fonctionne. Ça permet d'ailleurs à davantage de douaisiennes et de douaisiens de suivre le conseil, puisque d'habitude, c'est une vingtaine de personnes qui se déplacent. Et là, au fond, on doit avoir des centaines de personnes à un moment donné qui suivent au moins un passage du conseil.
Merci Frédéric Chéreau, je rappelle que vous êtes le maire de Douai, et si on en parlait, les jeudis à 19h et 23h et le samedi à 10h et sur radioorient.com. À bientôt.
Merci.
Et si on en parlait, du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.